Avec Gilles Balbastre par téléphone, Gilles Balbastre, réalisateur du documentaire Main basse sur l'énergie. D'abord, quel était le point de départ de ce film?
Alors, le point de départ, pour juste un tout petit peu remonter quelques années en arrière, c'est-à-dire que moi, je suis un des deux co-réalisateurs d'un film qui s'appelait Nouveau Chien de Garde, qui a eu un assez gros et même un gros succès en salle de cinéma en 2012. Qui posait un regard très critique sur le monde des médias, l'organisation de l'information en France. Ça a eu deux effets, je dirais qu'ils ne sont pas les mêmes. D'une part, ça m'a blacklisté complètement de la télévision. Il n'y a certainement pas que cette raison. Mais moi, je travaillais plutôt pour France 5. Je pouvais faire des films sur les services publics. J'en avais fait. J'avais fait un film qui s'appelait EDF, Les Apprentis Sorciers, en 2005 sur France 5. Donc voilà, ça m'a blacklisté définitivement de la télévision. Mais à côté de ça, le film a été remarqué par certains syndicats, notamment de la CGT, de Sud ou de la FSU. Et ils ont même accompagné ce film parce que ça les intéressait, parce que souvent ils trouvent que l'information est mal faite, partiale, ne pose pas les bonnes questions, s'occupe trop de faits divers alarmistes, pardon, et pas assez d'autres problématiques. Et donc, le film Le Nouveau Chien de Garde a été accompagné par pas mal de syndicats, notamment des gros syndicats genre Cheminots et l'énergie. Et voilà, le chemin s'est fait de par ça. Et constatant que des problématiques importantes, des débats importants n'ont pas lieu sur quel transport, par exemple les poids lourds, hein, la surmultiplication des poids lourds sur les routes, ça a donné transport de marchandises changeant d'air avec le CE fret. Et là, la CGT Énergie, la Fédé de l'énergie, est venu me voir en me disant, voilà, nous on veut faire aussi un film de réflexion sur le service public et de réflexion et de travail sur où on en est depuis 10 ans de libéralisation, ou pour tout dire plus rapidement, de dérégulation et de casse du service public. Les gens sont perdus, ne comprennent plus rien, confondent les mots entre EDF, Engie, le distributeur, les distributeurs Enedis, c'était ERDF avant, GRDF, il y a des tas de fournisseurs, enfin bon, c'est RTE, Réseau Transport Électricité, les gens ne comprennent plus rien, savent plus qui est le service public encore là-dedans, s'il y en a. Voilà, ils constatent par contre une très grande augmentation des prix, hein, plus 70% du prix du gaz en l'espace de 10 ans, plus de 35% du prix de l'électricité, une montée importante de la précarisation, plus de 10-12 millions de précaires de l'énergie, les gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures, voilà. Et aussi, grosso modo, un harcèlement de la part des fournisseurs. Vous avez Direct Énergie, vous avez des tas de fournisseurs, et maintenant, ils vous téléphonent, ils vous harcèlent, ils usurpent leur identité, ils se font passer pour EDF pour mieux vous fourguer d'autres contrats. Et pour dire un gros mot, c'est le bordel. C'est le bordel, le secteur de l'énergie.
Alors, voilà,
ils m'ont demandé de faire ce film. Ils ont fait un truc intéressant, c'est qu'ils ont levé une souscription, un crowdfunding, maintenant, comme on dit en anglais, et ils ont demandé 1 euro, 1,50 € à tous leurs syndicats, hein, c'est-à-dire les syndicats de Lille, de Nice, etc., à chaque syndiqué, et ils ont récolté quand même 70 000 euros, qui commence à faire une somme relativement intéressante, pas forcément énorme, pour faire un film un peu travaillé, en payant les camarades techniciens, en me payant au minimum syndical, voilà. Donc voilà comment s'est passée l'histoire de ce film.
Ah, c'est un film qui donne la parole aux syndicalistes CGT, mais aussi à des associatifs. Donc ça invite à une réflexion sur le processus actuel de libéralisation de l'énergie, avec plusieurs épisodes, notamment concernant l'hydraulique, l'éolien, et aussi un épisode sur l'entretien du réseau électrique. D'abord un mot sur l'hydraulique. Là, le gouvernement Édouard Philippe a signé la privatisation des barrages hydrauliques en France.
Alors, juste, le film donc fait à peu près 1h20, mais il est en 6 épisodes, d'ailleurs 5 épisodes et un épilogue. Chaque épisode fait 15 minutes, ce qui peut être regardé, c'est une mini-série, si vous voulez, avec une saison 1, saison 2, etc. Et le deuxième, c'est ça s'appelle Main basse, on en a fait un polar, c'est-à-dire que j'ai été chercher un film, on est parti sur un feuilleton des années 60 qui s'appelle Les Incorruptibles, alors un feuilleton en noir et blanc avec le fameux Elliot Ness, hein, le flic intègre, avec des mafieux, des seconds couteaux, des politiciens véreux, etc. Et on a transposé aujourd'hui. On a même fait, chaque épisode commence avec une petite scénette, joué par des syndicalistes de Nice, et il représente un groupe de mafieux qui s'appelle le syndicat de la casse du service public, avec à sa tête Don Michael. Alors effectivement, alors le Premier ministre a confirmé ce que d'autres Premiers ministres avaient déjà acté, et c'est la Commission européenne qui a engagé ce processus d'ouverture à la concurrence des barrages, c'est-à-dire les concessions de barrages qui appartenaient, ces concessions étant renouvelées tous les 70 ans, l'étaient pour le moment au service public EDF, étaient gérées comme un service public, et à partir de Borloo 2008, ministre de l'écologie sous Sarko, il y a un processus de privatisation qui se met en place avec une résistance de la part des syndicats, de l'énergie, et un processus qui s'accélère cette année, voilà. Là aussi, dans un silence médiatique un peu assourdissant, on sait tous, on a tous entendu parler de l'héritage d'une personne qui s'appelle Johnny Hallyday. Là, on est en train de brader l'héritage de 66 millions de personnes, c'est-à-dire de nous tous. Et juste en deux secondes, le barrage hydraulique, c'est la seule façon de stocker de l'électricité, c'est-à-dire on stocke de l'eau, et l'eau peut devenir électricité très rapidement. C'est le moyen le plus rapide pour faire électricité actuellement, en grosse production, c'est-à-dire 3 minutes, 3 à 5 minutes. Il y a à peu près 15 à 17% d'énergie fabriquée par l'hydraulique en France actuellement. Et souvent, ils sauvent les coups de pointe. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'énergie se stocke pas et qu'il faut totalement, tout le temps, réguler la consommation de la production. Là, on consomme tant, il faut produire aussitôt pareil. Et ça, c'est important. Il y a blackout. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité du tout. C'est panne noire. Ça n'a pas eu lieu en France depuis des tas de décennies. Dans des tas d'autres pays, ça existe. J'ai un jeune Colombien qui vit depuis 4 ans ici à Lille, à la maison. La première chose qu'il a dit quand il est arrivé, c'est quand les coupures d'électricité ici en France. Voilà. Enfin, on ne s'étonne pas que des pays où il y a des coupures régulières sont des pays où il existe un tas de problèmes. Voilà. Et donc là, en filant, vous imaginez bien que ça peut sauver le réseau. Le gars qui a un barrage et qui peut sauver le réseau, qui évite le blackout, mais il met les zéros qu'il veut devant la virgule. Il vend le gigawatt, le mégawatt, le prix qu'il veut. Et il saura acheter ce prix-là. C'est de l'or en barre. Et c'est mieux que les péages, que la privatisation des péages. C'est du jackpot, donc c'est du racket. Et ça concerne 66 millions, tous les Français. C'est-à-dire qu'on va nous voler quelque chose qu'on possédait et qui permettait des tas de choses. Vous voyez, donc c'est important de débattre de ça ou de savoir ça. Et hélas, on ne sait pas. On sait tous le problème des véganes en France. Certes, c'est un problème, ça existe. Mais la privatisation des barrages, c'est un réel problème aussi et d'importance.
Sur les concessions hydroélectriques, là, on risque de rentrer dans des contentieux qui sont lourds. Donc, il va falloir que nous prenions un certain nombre de décisions en essayant de protéger nos droits, et notamment ceux de notre grande entreprise. Donc, mais il y a aussi un moment où on ne pourra pas repousser en permanence l'échéance, sauf à se retrouver avec des conséquences économiques qui vont être lourdes.
Et toi, Dom Bachoual ?
Et moi, je prends les restes des Alpes. Comme ça, je suis à côté de mes amis.
Vas-y, vas-y. Et toi ?
Et d'où ?
Ça va, ta femme ? C'est bon, ta femme ?
Oui, c'est bon.
Autre cas de figure, c'est celui de l'éolien. Là, c'est un peu le western que vous décrivez dans votre documentaire, une sorte de ruée vers l'or. Là aussi, un champ libre et des cadeaux faits au privé.
Alors ça aussi, hein, les énergies renouvelables dans l'ensemble, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque. C'est-à-dire pour le développer, les gouvernements, à partir de Yves Cochet, un ministre de l'écologie, ce Lionel Jospin en 2001, décident de faire des obligations d'achat, hein, c'est-à-dire que grosso modo l'énergie éolienne est à 82 euros le mégawatt, alors que le mégawatt d'électricité classique est à peu près à 40 euros, hein, c'est-à-dire deux fois plus. Et il y a obligation d'achat, c'est-à-dire que EDF se doit de racheter, quel que soit le besoin d'électricité, en priorité l'énergie renouvelable. L'éolien, on n'a pas besoin d'électricité, ils ont produit, il y a du vent ce jour-là, mais il fait plutôt doux, on n'a pas besoin d'électricité, poup, c'est racheté à 82 euros. Alors que comme on n'a pas besoin d'électricité, l'électricité peut tomber à 10 euros, 5 euros, moins, parfois moins 10 ou moins 15 euros au marché spot. Et là, vous avez toujours obligation d'achat à 82 euros. Et ces 82 euros, cette électricité renouvelable est remboursée sur nos factures. C'est-à-dire que vous regardez votre facture, il y a une petite ligne, il faut la retourner. Hein. Ça s'appelle la ligne CSPE, contribution pour un service public d'électricité, dont 70% correspond au remboursement de cette énergie renouvelable. C'est à peu près 16% de la facture, de toutes les factures, de chaque facture. Ça veut dire que vous avez créé des rentes de situation, des rentes de jackpot pour des gars privés qui se sont engouffrés dans l'éolien et qui étaient écolos comme moi, je suis curé. Oui, à peu près la même chose. Et ça donne, par exemple, je me suis intéressé à l'Aisne, hein, c'est un département à côté des Hauts-de-France maintenant, et vous avez un gars, par exemple, il s'appelle Philippe Etuin, il a une boîte qui s'appelle Escofi, c'était un des plus grands négociants en grains de la région. Un négociant en grains, c'est un gars qui transporte avec ses 38 tonnes les entrants, il avait une boîte de phytosanitaire, hein, donc du glyphosate, etc. Il amène ça aux céréaliers qui le répandent dans leurs champs, et après il revient, il va chercher avec ses 38 tonnes, des flottes de 38 tonnes, les céréales. Oui, c'est un écolo, hein. Et bien le gars, il s'est foutu, il a monté une boîte à Escofi, il a plusieurs parcs éoliens dans l'Aisne. Et il a sur son site internet, vous voir Escofi, il n'y a que le mot développement durable et écologie sur la langue. Voilà. Et il y a un autre qui s'appelle Mouratoglou, hein, c'est en 10 ans, il est devenu 58e fortune française. Et un peu comme dans la téléphonie mobile, hein, en l'espace de 15 ans, vous avez deux gars qui sont apparus dans les 10 premières fortunes françaises, Xavier Niel de Free et Patrick Drahi de SFR, hein, qui possède un grand nombre de médias, par exemple, hein, Libération, Le Monde, Télérama, BFM, L'Express, Nouvelle Obs, L'Obs, etc. Et ils sont rentrés en l'espace de 15 ans, suite à la dérégulation des télécoms, dans les 10 premières fortunes françaises. Et bien vous avez le même chemin qui est en train de se suivre, d'être fait avec la dérégulation de l'énergie. Alors tout ça pour installer de l'énergie renouvelable. Alors moi j'ai rien contre, et en plus toute l'équipe on était plutôt pour l'énergie renouvelable, pour les éoliennes, mais même moi j'en ai appris, et tous les copains, il y a même le monteur qui est plutôt décroissance, hein. Au départ, il me disait, oh Gilles, quand même, où tu vas et tout. Il en était stupéfait. Il avait les bras qui tombaient. Parce qu'on peut très bien organiser, effectivement, mettre en place un service public de l'énergie qui met en place, qui décide de mettre en place des énergies renouvelables. Rien qu'un dernier petit détail. Les éoliennes sont mises n'importe où. Là où les mecs, des constructeurs, savent qu'ils vont se faire du fric. Donc vous avez réseau transport électricité, qui sont obligés de sortir des lignes de 80 000 volts, et ben pour sortir l'électricité de ces parcs éoliens, là où il n'y avait pas de ligne d'électricité 80 000 volts. Et en plus, ils mettent une ligne de 80 000 volts au cas où les éoliennes marchent. C'est-à-dire si elles produisent tout en même temps. Parce que la plupart du temps, elles ont 30% de facteur de charge. C'est-à-dire qu'elles produisent 30% d'électricité par rapport à leur capacité maximale. Donc, c'est surdimensionner les lignes qui sortent. C'est très joli dans le paysage, des lignes de 80 000 volts. On aurait pu organiser, par exemple, mettre ces éoliennes autour, déjà, de lignes de haute tension, de grande distribution, pour, voilà, pas impacter le paysage. C'est très écolo, ça aussi. Et en plus, dernier petit détail, eh ben, ces lignes 80 000 volts, elles sont construites à quel frais? Ben, au nôtre. C'est-à-dire le grand public. C'est nous qui les payons. Pour des intérêts privés. Et alors, bon, pareil, je me suis intéressé à l'éolien, mais le photovoltaïque, c'est pareil. Donc, vous voyez, et ça ne remet pas en cause le photovoltaïque et l'éolien, ça remet en cause la façon qu'il a été mis en place. Et ça, tous les ministres, tous les présidents et tous les ministres d'écologie, que ce soit Ségolène Royal, que ce soit Borloo et compagnie, ils ont renouvelé ces obligations d'achat avec jackpot. En Italie, ça donne que la mafia s'est emparée de ce marché-là, qu'elle est en train d'arriver en Allemagne, et que les conflits d'intérêts en France de maires qui en profitent pour mettre des éoliennes sur leur terrain et se faire les couilles en or se sont multipliés. Donc ça multiplie quoi la corruption? C'est intéressant, hein, comme processus.
Notre ami Jean-Louis Borloo nous fait un grand cadeau.
Et alors?
Champagne.
Nous sommes le 24 décembre 2008 dans le bureau parisien de Don Michael. Le syndicat de la casse des services publics est à la fête. Il faut dire qu'ils ont de quoi se réjouir.
Oh ! On se calme, hein ?
La veille, le ministre de l'écologie du gouvernement de Nicolas Sarkozy n'a pas failli à la tradition des cadeaux de Noël.
L'arrêté fixant les conditions d'achat d'électricité éolienne clarifie la situation, améliore la visibilité économique du secteur. Les levées des fonds, les projets, le financement vont se multiplier avec les montants inconnus de ces dernières années.
Eh ben ça, c'est pas du vent. Ça.
Les gars, c'est le jackpot. Ouais, wow.
Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50.
On est toujours par téléphone avec Gilles Balbastre, réalisateur du documentaire « Main basse » sur l'énergie.
Ah, si j'avais 4 francs 50, ça me ferait bientôt 100 sous.
Alors, qu'est-ce que les syndicats demandent ? C'est de revenir à un service public intégré, EDF-GDF, donc l'État qui contrôle la production, la distribution, la vente à des usagers à nom des clients, la recherche aussi ?
Ça, c'est-à-dire qu'au fond, cette situation de multiplication d'opérateurs, de prix qui augmentent, voire là actuellement, ces opérateurs jouent avec la production. Et souvent, on est en flux tendu, on est à la limite de blackout. Avant, le service public, il avait 5 à 10, 15% d'énergie dormante, de production dormante, et elle ne sortait uniquement, elle était utilisée uniquement que s'il y avait risque de blackout. C'est évident. Sauf que là, qui c'est qui va détenir 15% de production qui ne marche pas ? Personne. Aux États-Unis, ce petit jeu a donné, avec Enron en 2001, des blackouts dans le plus grand État qui a un PIB équivalent à un des premiers du monde. Ouais. Blackout, parce qu'ils se sont amusés à restreindre la production pour faire augmenter les prix. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, ils ont tellement joué avec cette production en la rétrécissant qu'il y a eu blackout. Voilà. Donc, on est avant-guerre, entre les deux guerres, ça a été ce processus-là. Mais au niveau du monde entier, il y avait une très mauvaise énergie. Voilà. Après-guerre, les méfaits du libéralisme ont été quasiment prohibés sur la planète, y compris aux États-Unis. Et grosso modo, quel que soit le pays, on a monté des boîtes uniques, soit service public, soit délégation de service public intégrée, qui contrôlait de la production au consommateur directement, à l'usager. Parce que comme ça, ça ne spécule pas. C'est un produit qui ne se stocke pas, donc le risque de spéculation du marché est énorme, avec des conséquences désastreuses. On n'a pas connu de blackout. Je peux vous dire que, et quelque part, on est entre guillemets, il y a plein de gens qui sont en précarité énergétique, à qui on ferme l'électricité. Hein. Mais on est des enfants gâtés, parce qu'au fond, on a l'électricité partout. On va à l'hôpital, on a l'électricité, on prend le métro, on a l'électricité. On va au supermarché, ou on va dans sa coop bio, on a l'électricité. Du jour au lendemain, s'il y a un ou deux jours de blackout pour l'électricité, toute la chaîne est arrêtée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bouffe. En un jour, il n'y a plus le froid, donc il n'y a plus de bouffe. Il y a des dizaines de morts. Il y a des gens bloqués dans les métros, etc. Les hôpitaux, comment ils font et tout. Ça serait terrible. Et effectivement, si ça a été intégré après-guerre, c'est même pas pour une question idéologique, c'est pour une question technique. Voilà. Et pour éviter les méfaits. Alors, que, entre-temps, ça ne s'est pas dégradé. Qu'entre-temps, le service public qui s'appelait EDF-GDF n'a pas toujours été très service public. Qu'il a joué cavalier seul parfois en dehors de la nation des citoyens et des usagers. Qu'il ait par exemple décidé d'utiliser énormément du nucléaire dans les années 60-70, de construire beaucoup et de baser sur l'électricité, notamment nucléaire. Ce sont des vraies questions. Et effectivement, on a des raisons de se méfier peut-être. Certaines personnes, comme les salariés d'EDF, ont des raisons de se méfier d'EDF. Et d'aujourd'hui, Engie, puisque GDF, Gaz de France, a disparu. Donc, cette question-là, il faut la remettre, parce que cette question-là a été posée par les résistants, par le Conseil national des résistants en 1944, et pas pour rien. Donc, c'est pas une question d'utopie, etc. C'est une question de survie d'un équilibre énergétique, de quelque chose qui est vital. Un des électriciens me disait, l'énergie, l'électricité, c'est le sang de la nation. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, cette question du service public de l'énergie, même si elle nous paraît maintenant très éloignée, même si on se dit mais comment on va y arriver, ben ouais, mais faut qu'on ait des programmes si on veut récupérer ce pouvoir-là. Et ces programmes, ça passe par ça. Donc c'est pour ça que ce film existe. C'est sauvons le service public de l'énergie, reconstruisant un service public de l'énergie très démocratique, avec dans son conseil d'administration des usagers, des citoyens, des syndicats, etc. N'en faisant pas une machine productiviste capitaliste qui fait tout et n'importe quoi. Et effectivement, débattons de l'énergie pour demain, parce que ça, ce sont des sacrés enjeux, surtout avec les enjeux actuels de réchauffement climatique, de préservation de la planète.
Justement, dans le documentaire, vous en parliez, il y a un petit passage sur le nucléaire. Finalement, ça reflète un peu la position de la CGT sur le nucléaire, pas vraiment pour, pas vraiment contre.
Voilà, ça c'est dans le débat. Ils sont la CGT Énergie, ce qui est intéressant, moi je suis pas la CGT Énergie et j'ai une liberté de parole, de ton. Simplement, bon voilà, j'ai pris des faits, j'ai analysé, etc. La CGT Énergie, alors un détail, c'est un détail important, actuellement 100% renouvelable n'est pas possible. Les énergies renouvelables, on dit qu'elles sont non pilotables. C'est pas plus compliqué, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de soleil et que vous n'avez pas de vent, ça peut arriver, mais vous n'avez pas d'électricité, mais pas du tout. Vous pouvez ne pas en avoir quasiment pas. Et comme vous avez une consommation, une demande, si vous n'avez pas un peu de production, il y a blackout, puisque ça ne se stocke pas. Donc grosso modo, actuellement, on dit qu'à peu près, il faut 35 à 40% de mix énergétique et d'énergie renouvelable. 35 à 40% dans un mix énergétique. Ça veut dire qu'on peut compléter, voilà, la CGT Énergie pose la question que pour le moment on peut pas se passer encore du nucléaire, tant qu'on sait pas stocker, il faut faire de la recherche. On peut augmenter la production hydraulique, parce que ça se stocke avec les barrages et qu'en France on a beaucoup de montagnes et une capacité hydraulique. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les STEP, les stations de pompage. C'est-à-dire, vous avez un barrage et vous fabriquez un second barrage en bas avec une seconde réserve d'eau. La nuit, vous avez moins besoin d'énergie, vous pompez l'eau dans le barrage supérieur la nuit, et le jour, notamment le matin, quand il y a des pics de demande, ainsi que le soir, vous lâchez l'eau et vous faites de l'électricité. Voilà. Ça vaut à peu près 1 milliard. C'est énorme, c'est des grosses sommes. C'est des investissements sur 20-30 ans. Voilà. Et ça peut être que le service public qui va investir là-dedans. C'est pas du privé, ça les intéresse pas, c'est pas assez vite rentable. Donc vous imaginez bien, donc il y a des solutions aussi pour faire de l'énergie renouvelable, de l'énergie écologique, en mix, etc. Donc voilà, la CGT se positionne comme ça. On peut ne pas être d'accord. Et ça, moi, tout à fait, ils sont d'accord pour discuter légitimement. Vous savez, moi, à 17 ans, 18 ans, j'avais manifesté contre Creys-Malville en 77. Donc je ne peux pas dire que j'ai été formé pour un enthousiasme au nucléaire. Alors j'ai peut-être un peu... modifier mes positions, mais sans être un pro-nucléaire, baba. Donc voilà. Après, il y a des réalités. Les gens de la CGT Énergie ne sont pas des gens qui ont envie de faire sauter la planète. Il faut arrêter de les regarder comme ça. Ce sont des techniciens qui connaissent les contraintes de l'électricité. Un des gars me disait, tu sais Gilles, on peut changer la loi des hommes, on ne peut pas changer la loi d'homme. C'est une loi basique de l'électricité. Voilà. Voilà, il y a des réalités comme ça. Le film, il est là pour en débattre. La CGT Énergie est tout à fait d'accord pour aller discuter dans des débats avec des projections, après des projections. Et d'accord pour aller discuter avec le réseau Sortir du Nucléaire, avec des gens qui, légitimement, ont des inquiétudes et posent la question du nucléaire comme quelque chose de compliqué ou ne le veulent plus.
Gilles Balbastre, réalisateur du documentaire Main basse sur l'énergie. Vous pouvez visionner ce film et ses différents épisodes en ligne www.mainbassesurlenergie.com. Tout collé, ça fait réfléchir.